Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 2 concernant « Où jeter l'ancre ?» Et le titre de notre deuxième étude, c'est donc « La Bible, erreur ou réalité ?» À notre précédente étude, nous avons vu que la seule preuve de l'existence de Dieu est sa révélation. Sans révélation, Dieu est mort, comme le dit Nietzsche. Or, que l'homme croit ou ne croit pas à l'existence de Dieu, une chose demeure palpable et certaine, c'est l'existence de la Bible. En disant Bible, il s'agit bien entendu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Maintenant, voyons de plus près la Bible et les religions. La Bible est dénommée aussi « parole de Dieu ». Et nous disons bien « parole de Dieu » et non pas « parole de religion », car la Bible, dans sa totalité, n'est ni juive, ni catholique, ni protestante, ni orthodoxe, ni sectaire, ni religieuse. Car en effet, celui qui à l'heure actuelle veut aborder le domaine du surnaturel divin comme le fait la Bible, se trouve tout de même en face d'une foule de religions, et sans compter environ 2700 sectes religieuses. Parmi toutes ces dénominations qui prétendent avoir la vérité, certaines, et non des moindres, se recommandent carrément en quelques parties seulement de la Bible. À titre d'exemple, mentionnons que les Israélites, par exemple, ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. L'islam a glané dans la Bible quelques idées directrices du Coran. Les catholiques romains ajoutent des livres apocryphes et associent la tradition, beaucoup de traditions de l'Église à la Bible. Le protestantisme réformé n'intérine pas toute l'écriture, c'est quand même vrai, surtout sur les manifestations spirituelles. Et les adventistes autorisent avec la Bible les écrits d'Ellen White. Les mormons ont un livre qui se dit « complété la Bible ». Ce sont les révélations de l'ange Moroni. Quant à la science chrétienne, elle ne fait que soumettre la Bible à la doctrine prépondérante de Mrs. Mary Baker Eddy. Et les témoins de Jéhovah, eux, ils ont choisi de réécrire à leur façon la Bible. Seuls les chrétiens authentiques, de quelque dénomination qu'ils soient, accepte toute la Bible et rien que la Bible. Peut-on, voyons tout cela, se permettre par exemple de dire que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Dieu a-t-il vraiment parlé aux hommes? Pourquoi, quand et comment? Ce sont des questions vieilles, comme le monde, mais toujours brûlante d'actualité. Chers amis, la révélation se définit comme suit. C'est l'acte par lequel Dieu dévoile ce que l'homme ne peut découvrir de lui-même. L'existence de philosophie et de religion prouve que l'homme se recherche lui-même. L'existence de tant de philosophies et de religions prouvent que l'homme ne peut résoudre ce problème par lui-même. Ce problème est concrétisé par les questions suivantes qu'un jour tout homme se pose obligatoirement. D'où vient vraiment l'homme? Pourquoi la souffrance et la mort? Où sont la paix et le bonheur? Qu'y a-t-il après la mort? Dieu existe-t-il vraiment? Bref, quelles sont l'origine et le devenir de l'humanité? Eh bien, la multiplicité contradictoire des réponses humaines est la preuve tout simplement de leur erreur. L'homme matériel ne peut accepter, ou si vous voulez, accéder à Dieu, révélé ou conçu comme un esprit immatériel. Voyez-vous, le fait que Dieu parle est bien mentionné dans l'histoire juive et chrétienne. Il l'a fait dans les théophanies, donc les apparitions à Abraham, Moïse, etc. Les songes et les visions à Jacob, à Daniel, les paroles inspirées, les prophéties, exemple la prédiction ancienne du retour actuel d'Israël en Palestine. Au sujet de la personne de Jésus-Christ, il est dit que la parole a été faite chair et elle habite parmi nous. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Dieu parle pour créer le monde. Dieu parle tout au long de l'Ancien Testament. Et Dieu parle actuellement aux siens par le Saint-Esprit. Comme la Sainte Parole, par la transmission orale, est susceptible de déformation et de détérioration, eh bien Dieu a ordonné à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. C'est écrit dans Exode, chapitre 17, verset 14. Ce qui nous prouve sa sagesse et son grand amour pour nous. Faisons ici une parenthèse. L'éditeur, ou si vous voulez, pour nous, les auditeurs qui écoutent maintenant, et dans ces auditeurs, il y en a qui sont ironiques et incrédules, évidemment, et devant de telles affirmations qui dépassent de loin la raison et l'intelligence humaine, doit, s'il veut jouer le jeu et parvenir à trouver ce qu'il recherche secrètement dans sa lecture, il doit, dis-je, admettre que ces faits sont possibles, puisqu'ils viennent de celui à qui rien n'est impossible. C'est écrit dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, verset 27. Il faut donc faire ici une remarque intéressante. C'est que l'Écriture sainte, ayant commencé à exister en 2550 avant Jésus-Christ, Noé étant le dixième homme depuis Adam, hors Sem, son fils, qui vivait en 2500, a pu rédiger la traduction orale issue du premier homme du fait que son grand-père était contemporain d'Adam. Mais ce n'est pas notre affaire à nous pour le moment, et nous tenons, si possible, donc notre pensée vers Moïse, qui est le premier rédacteur officiel du livre en grec, Ta Biblia, les livres. ce qui a donné tout simplement la Bible. Si un homme écrit de lui-même des choses qui le dépassent, quelle que soit la bonne volonté, il se trompera inévitablement. Et c'est pour cela que dans notre image intervient le constructeur qui souffle le code au mécanicien ignorant. Oui, le constructeur souffle carrément le code au mécanicien ignorant, comme le souffleur, par exemple, le fait à l'acteur oublieux. Et pour que tout soit bien exact, Dieu doit inspirer, en hébreu cela se dit souffler, ou au rédacteur sacré, carrément les mots eux-mêmes. Donc, l'inspiration, c'est l'action du Saint-Esprit de Dieu guidant dans la vérité du message divin les auteurs sacrés. Et partant de cette définition, nous devons montrer que la Bible est totalement inspirée de Dieu. Et pour cela, je choisirai la méthode dite par élimination. Aussi, voyons cela un peu de plus près. Il y a ceux qui disent « la Bible n'est pas du tout inspirée ». C'est le premier argument de l'opposition à l'inspiration. On ne peut faire du parfait avec du médiocre. Et l'histoire nous détaille suffisamment les imperfections caractérielles et morales des auteurs sacrés pour nous faire saisir que le personnage parfait du Messie n'a pu être inventé par des modèles imparfaits. De toute manière, si les auteurs sacrés n'avaient pas été inspirés, comment toutes les prophéties auraient-elles pu et sont-elles encore confirmées en détail par l'histoire? Croyez-moi, nous sommes bien loin de l'à peu près, par exemple de Nostradamus ou de Jane Dixon et des extralucides, car dans la Bible, non seulement une partie, mais tout ce qui a été prédit s'est réalisé et continue à se réaliser de nos jours. Nous verrons plus loin la démonstration de cette affirmation. Puisque cette inspiration existe, elle peut être mesurée. Cette mesure, c'est le canon. Canon voulant dire règle qui sert à mesurer. Un livre est dit canonique, oui, on dit un livre va être canonique quand il est reconnu qu'il est bien inspiré par la synagogue et l'Église. Notez l'Évangile de Jean chapitre 14 verset 26. Je dis bien reconnu, car l'Écriture sainte dont est composée la Bible a existé avant la synagogue pour l'Ancien Testament et bien avant l'Église pour le Nouveau Testament. C'est donc en présence des textes reçus qu'est la conviction unanime des scribes pour l'Ancien Testament et des théologiens pour le Nouveau Testament qui a préservé la synagogue et l'Église d'admettre des textes illégitimes dont l'authenticité ne peut être prouvée. C'est par exemple le cas des apocryphes reconnus non inspirés par le canon hébraïque, ce qui les fait rejeter inéluctablement. L'inspiration prophétique s'est éteinte avec le prophète Malachie en 400 avant Jésus-Christ pour l'Ancien Testament et en 95 avec l'apôtre Jean pour le Nouveau Testament. Le canon de cette inspiration a été définitivement fixé pour l'Ancien Testament en 174 avant Jésus-Christ et pour le Nouveau Testament dès le IIIe siècle. Il est à remarquer que les apocryphes qui ont été ajoutés à l'encontre de la décision du canon hébraïque par le Concile de Trente en 1546, ne peuvent être canoniques car, de par la date même du Concile en 1546, le canon était depuis environ 1300 ans clos. Ils sont donc de plus rejetés par l'historien Flavius Joseph au 1er siècle et par Saint Jérôme au 5e siècle. Sans compter la preuve donnée par le premier livre des Maccabées, ouvrage apocryphe, qui reconnaît dans son propre texte qu'il n'est pas prophétique. Notez 1 Maccabées, chapitre 9, verset 27, et le chapitre 14, verset 41. En 1970, Susan Haik Ventura a été providentiellement amenée à décrypter dans la Bible des signes qui sont des notes musicales datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ pour les plus anciens. Ces signes permettent de chanter entièrement toute la Bible hébraïque ou Ancien Testament dans une musique dont la tessiture n'a rien à envier à notre musique contemporaine. À la connaissance de l'auteur, le canon hébraïque seul possède ces signes musicaux inspirés à leur rédacteur. C'est une preuve supplémentaire pour refuser toute inspiration divine aux autres livres sacrés non inclus dans le canon hébraïque. En plus, depuis plus de 2000 ans, aucun auteur religieux n'a été capable de produire un écrit qui pourrait être reconnu canonique. Le premier argument étant éliminé, passons maintenant au deuxième. Certains disent que la Bible n'est que partiellement inspirée. L'inspiration ne porterait que sur les pensées. En ce cas, l'homme garde la liberté de corriger et de redresser les mots et les termes. Tout devient confus du fait que l'apprenti veut en savoir étymologiquement davantage que le maître. D'ailleurs, les auteurs eux-mêmes, si différents soient-ils quant à l'époque, la culture et le tempérament, affirment que leur inspiration a été entière et sans restriction. À titre d'exemple, citons la transmission de la loi, mot après mot, à Moïse, selon Exode chapitre 32, verset 16. Les paroles de Balaam, contraint de bénir Israël, alors qu'il voulait le maudire, Nombre, le livre des Nombres, chapitre 24, verset 9. Le plan du temple de Jérusalem, reçu intégralement par David, selon 1 Chronique, chapitre 28, verset 12. L'apôtre Jean, il nous dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Quel est, chers amis, le chrétien qui mettrait en doute les écrits de l'apôtre Jean? Par réfutation de ce deuxième énoncé, nous avons la preuve que la Bible est théopneustique. J'ai bien dit théopneustique, ce qui veut dire soufflé par Dieu quant aux mots eux-mêmes. Le style propre à l'auteur restant en dehors de l'inspiration. Or, il y en a qui pensent que seul l'enseignement doctrinal est inspiré. Or, nous pouvons supposer que les faits historiques sont incertains et légendaires, ce qui ne saurait être d'un Dieu parfait. L'histoire et l'archéologie prouvent l'authenticité des portions non dogmatiques de la Bible et font indirectement la preuve que ces portions sont aussi inspirées. À ce sujet, lisez la Bible arrachée au sable par Werner Keller, Presse de la Cité à Paris, 1962. C'est la deuxième preuve, croyez-moi, de l'inspiration de la Bible. Donc, la Bible contient-elle vraiment la parole de Dieu? C'est-à-dire que dans la Bible, tout n'est peut-être pas la parole de Dieu. Ça, c'est le troisième argument contre et plus répandu. Oui, les religions qui reconnaissent autant de valeur à leur tradition qu'à certains passages des Écritures ou qui préfèrent leur tradition à l'Écriture sainte sur certains points sont formellement condamnées par le Messie. Il dit « Vous anéantissez fort bien la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Saint Marc, chapitre 7, verset 9 et le verset 13. Ce troisième argument s'appuie sur ce que les faits miraculeux et incompréhensibles de la Bible seraient à rejeter comme n'étant pas logiques. Nous demandons à ces croyants incrédules si Dieu a une logique restreinte à notre logique humaine. Le Créateur de l'univers est-il limité dans sa puissance qu'il ne puisse faire ce qu'il trouve bon, à savoir parfois agir contre ses propres lois? Un constructeur de moteurs n'est-il pas libre de modifier quand bon lui semble ou quand c'est utile sa chaîne de montage? Vouloir décider ce qui dans l'Écriture sainte est inspiré ou non, et non seulement contraire au canon fixé inéluctablement, oui, carrément, inéluctablement. Mais encore, voyez-vous, pour celui ou pour ceux qui prennent cette position, c'est se placer carrément au-dessus de l'Écriture divine, c'est-à-dire se prendre pour Dieu. Et là, c'est encore vouloir découvrir par soi-même quelle serait la parole de Dieu au milieu de paroles d'hommes, ce qui est une impossibilité, en sorte que cette attitude conduit soit à l'incrédulité, soit au mysticisme. Chers amis, croyez-moi, nous avons la valeur irréfutable de la Bible. Pour savoir si un ouvrage est authentique, il faut demander à voir l'auteur ou l'original. Or, voyez-vous, l'auteur est invisible et l'original de l'Ancien et du Nouveau Testament est perdu. Alors, me direz-vous, c'est aussi perdu pour la Bible. Que fait-on, chers amis, quand on possède, par exemple, un acte de naissance issu d'une mairie détruite par un incendie. Eh bien, comme l'on sait qu'il ne sera pas possible d'avoir un autre original, on en fait faire des copies pour le cas où ce précieux document viendrait à disparaître à son tour. C'est ce qui s'est produit pour la parole de Dieu. L'original a été détruit ou perdu, mais les hommes religieux de l'époque ont raisonné exactement comme vous et moi, et ils ont fait des copies, et ceci avant que l'original soit dégradé. Ce sont ces copies qui nous restent et dont nous allons rapidement tester la valeur. On fait bien maintenant des copies d'anciens films et même remastriés, paraît-il. Donc, pour l'Ancien Testament, l'original écrit en vieil hébreu a été recopié pendant 30 siècles par des scribes religieux uniquement versés dans la loi et les saintes écritures. Or, au 5e siècle, par crainte de la dispersion qui a été due aux persécutions, eh bien, une école de scribes et de rabbins très connus, c'était les Massorètes, décidèrent de transcrire le texte vieil hébreu en hébreu carré tel qu'il existe actuellement dans les Bibles hébraïques. Il comporte le même nombre de lettres que le texte ancien. C'est donc une transcription absolument réelle. Nous pouvons affirmer qu'en lisant l'Ancien Testament actuel, nous lisons l'original hébreu perdu il y a plus de 3500 ans. Pour le Nouveau Testament, l'original a pratiquement été écrit en grec, langue véhiculaire de l'époque. Et à partir de cet original, il s'est également fait des copies. Or, phénomène extraordinaire, il y eut plus de 5000 copies manuscrites. Phénomène encore plus extraordinaire de ces copies éparses dans les bibliothèques du monde entier et dont les plus complets et les plus connus sont le Codex Sinaiticus, le Codex Alexandrinus, le Codex Vaticanus et le Codex d'Ephrem. De ces manuscrits, dis-je bien, se dégage une concordance presque parfaite. Il existe aussi des traductions de l'original, telles que l'italique, la vulgate, le peshitto et la syriaque. Ces traductions confirment toutes les textes grecs des manuscrits cités. Et il y a encore des traductions des fameux pères de l'Église, tels que d'Irénée, d'Origène, d'Eusèbe, etc., qui, dès le IIe siècle, citent tous les textes du Nouveau Testament actuel. Par conséquent, cet accord total parmi la multitude d'écrits sur le Nouveau Testament, c'est donc la preuve formelle de l'existence antérieure d'un original unique. Voyons maintenant sa fiche signalétique. Voyez-vous, une fiche signalétique est remplie par l'intéressé sous sa propre responsabilité, sachant qu'à tout moment, il peut lui être demandé de produire les preuves de la véracité de ses écrits. Voyons cela. Voyons un peu cela. Donc, tout d'abord, ses propres affirmations. L'Ancien Testament répète tout à fait, et cela 3808 fois, j'ai bien dit 3808 fois, qu'il est la Sainte Parole de Dieu. La Bible entière ne fait que le répéter ouvertement. Prenons l'exemple du psaume 119, verset 160, ainsi que de Saint Matthieu, chapitre 24, verset 35, où il est dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenons l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 4, et également l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 48. Là, il est dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Ensuite, prenons toujours l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17. Et là, il est dit, ta parole est la vérité. Ensuite, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 2, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, et 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Là, il est dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il est dit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucun autre livre n'a l'audace de le faire d'une façon aussi fracassante, sans avoir pu recevoir de démenti valable. Le Messie ratifie l'Ancien Testament en le citant et en vivant selon son principe. L'apôtre Pierre ratifie le Nouveau Testament en citant les écrits de l'apôtre Paul au même titre que ceux de l'Ancien Testament. Les apôtres déclarent parler de la part de Dieu, selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 2. Mettre donc en doute ces affirmations massives soulèverait un problème moral grave du fait que la Bible offre la morale la plus élevée. Tout cours d'eau suppose une source. Une morale plus élevée que l'homme suppose donc une source surhumaine. Maintenant, voyons ses propres confirmations. Jésus-Christ et les apôtres confirment le témoignage de l'Ancien Testament. Ils emploient les expressions que je vais vous dire, que Dieu dit que la Sainte Écriture, il est donc écrit là, clairement, dans les Saintes Écritures, et que le Nouveau Testament nous cite tout de même 195 fois l'Ancien Testament. Et les prédications de Jésus-Christ et des apôtres étaient appelées Parole de Dieu. Les rédacteurs qui ont été inspirés ont conscience d'écrire la parole de Dieu. L'objection consistant à dire que seul Jésus-Christ le Messie est la parole de Dieu tombe ici d'elle-même, étant donné que les écrits sacrés de l'Ancien Testament et les prédications apostoliques du Nouveau Testament sont aussi la parole de Dieu, d'autant que leurs thèmes, concernant en majorité le Messie, c'est donc que la Bible, elle prévoit même que l'homme pourra aller dans le cosmos. Personne aurait cru cela. Et quand tu placeras, il est bien écrit, quand tu placerais ta demeure, toi l'homme, parmi les étoiles, eh bien, je t'en précipiterai. C'est écrit dans Abdias, donc dans Abdias 4. C'est un texte qui a été écrit il y a plus de 2750 ans. Voyez-vous donc, la Bible, on peut bien dire qu'elle sait absolument tout nous concernant. Chers amis, voyons, devant toutes les preuves et devant toutes les évidences, moi je vous propose d'admettre que la Bible est vraiment la parole de Dieu, afin de ne pas encourir son triple interdit. Attention, primo, il est dit, vous observez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. C'est écrit dans Deutéronome, au chapitre 12, verset 32. Secondo, il est dit n'ajoutez rien aux paroles de Dieu. C'est dans les Proverbes, au chapitre 30, verset 6. Et tierso, écoutez bien. Là, il est dit, je le déclare à qui quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera. Oui, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Et le verset 19. Notre foi, comme notre ancre, est solidement fixée sur ce rocher qui est la parole de Dieu, d'autant que son message est éternel et vivant. Puisque les promesses faites au peuple juif se sont réalisées, les bonnes comme les mauvaises en cas de désobéissance, et qu'elles se sont réalisées à la lettre, et puisque celles concernant la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection ont également était réalisé en totalité, lisez simplement le Nouveau Testament. Il nous est donc impossible de douter que les promesses laissées pour l'avenir par ce Messie ressuscité, que ces promesses-là, dis-je bien, ne soient pas réalisables pour chacun de nous. Il nous appartient, chers amis, d'éprouver le Dieu vivant en nous mettant dans les conditions nécessaires pour qu'il puisse accomplir à notre endroit une quelconque de ses promesses inscrites par lui et pour nous dans la Bible et dont nous pouvons nous saisir par la foi. C'est donc une expérience personnelle à faire. Expérience dont l'accomplissement est des milliers de fois plus certain que celui des promesses trompeuses que font miroiter les hommes par les soi-disant solutions pacifiques des systèmes, oui, des systèmes sociaux par exemple, et des systèmes politiques, ne possédant bien souvent que la puissance de l'illusion, car ils sont issus des pensées humaines qui sont sujettes à l'erreur. Les promesses de Dieu, dans l'immédiat, sont la paix en nous-mêmes et les délivrances d'épreuves corporelles ou morales. La certitude également d'une vie juste et heureuse après cette vie qui est injuste et très difficile. Voyez-vous, les promesses de Dieu dans un avenir très proche sont chronologiquement les suivantes. Le retour du Messie, la résurrection des morts, le revêtement d'un corps glorieux pour tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Messie et la plénitude de la vie juste en la présence constante de Dieu le Père. Le jugement de tous les autres aura lieu. La souffrance de se voir à jamais loin de l'amour de Dieu pour tous ceux qui seront hélas condamnés. L'auditeur, chers amis, qui serait désireux de connaître plus intimement la personnalité d'un Dieu qui peut l'aimer au point de vouloir le faire bénéficier d'une vie plus excellente dès à présent et même après sa mort, posera, j'espère, la question: quel est pour moi le plan de Dieu dans sa sainte parole, la Bible? Avant de poursuivre cette étude, j'invite chaque auditrice et chaque auditeur à se munir simplement d'une Bible, du fait que par pure commodité, les textes correspondants à mes citations y ont été puisés, car toutes les Bibles, sauf la traduction du Monde Nouveau, eh bien, sont très bonnes et fiables. Mais parce que l'Ancien Testament contient des livres pas tous inspirés, leur lecture vous ferait perdre en débutant, pour les débutants, tout au moins votre temps et votre argent. Et si vous n'avez pas de Bible entière, ne vous en faites pas. Il existe dans toutes les librairies chrétiennes et la maison de la Bible des Nouveaux Testaments pour pas plus de 2 €. Et je vous conseille au moins d'acquérir simplement le Nouveau Testament, qui est la portion jeune de la Bible pour notre époque. Et je dois vous avouer, et j'en ai honte, ma femme et moi, mais il y a fort longtemps, hein, il y a plus de 50 ans, nous avons dû lire 3 fois l'évangile de Saint Jean, qui se trouve dans le Nouveau Testament, l'évangile de Saint Jean, pour comprendre que nous étions perdus et pour comprendre que nous devions accepter le salut offert gratuitement par le Seigneur Jésus-Christ qui était mort pour nous à la croix et qu'il a versé son sang précieux pour nous racheter, pour nous sauver. Nous avons donc dû le lire, cet évangile de Saint Jean, 3 fois. Et vous qui êtes 10 fois plus intelligent, ou surtout qui avez fait certainement environ 8 à 10 ans plus d'école, puisque je dois vous avouer que mon père s'est marié 5 fois, que ses marâtres m'ont battu et maltraité, martyrisé, et j'ai pu faire que 4 ans d'école primaire. Et c'est plus tard l'Esprit Saint qui m'a enseigné tout ce que je peux vous citer maintenant sur ces nombreux CD. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez jamais qu'il vous aime. Mais avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner une petite, on peut dire, un petit exemple intéressant qui va vous aider. Une seule chose est nécessaire, et cela a été écrit il y a plus de 150 ans par un éminent serviteur de Dieu. Il a dit « Il y a bien des choses utiles et désirables dans ce monde, mais il n'y en a qu'une qui soit absolument nécessaire. Si on la possède, on peut être privé de tout le reste et quand même être heureux. Mais si on ne l'a pas, on est perdu, même si tous les trésors de la terre nous appartiennent. Est-ce la fortune? Jamais de la vie. Il y a un nombre de gens très pauvres qui sont malgré tout heureux et satisfaits. Est-ce la santé? Pas forcément, car certains ont connu les joies les plus profondes de toute leur vie sur un lit de maladie où ils ont compris qu'ils étaient perdus et qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Est-ce l'amour? Est-ce le bonheur conjugal? Beaucoup, surtout parmi les jeunes, rêvent, et je les comprends, de trouver un bon mari ou une charmante épouse et de fonder un foyer heureux. Il n'y a rien de mal à cela. Mais en dernière analyse, ce n'est pas là qu'ils trouveront le bonheur auquel ils aspirent. Combien croyons être déjà au septième ciel ont été amèrement déçus par la suite. Tout bonheur terrestre est extrêmement fragile. La preuve, de nombreux cas de ces jeunes mariés, eh bien, qui sont sans cesse croissants, curieusement, croissants et sont surtout les divorces. Est-ce l'aisance? Peut-être. Est-ce le succès? Être une star de cinéma? Mais non. Tout cela peut laisser un terrible sentiment de vide. Notre époque en sait quelque chose. Plus d'une vie qui semblait une réussite fracassante sur tous les plans s'est achevée dans la misère, le chagrin ou même le suicide. Est-ce un bon renom? Eh bien, celui qui a bonne conscience peut supporter la plus odieuse des calomnies. Un homme honnête qu'on essaye de noircir tant qu'on peut, est généralement plus heureux qu'un bon hypocrite que ses semblables couvrent de gloire. On dit bien qu'un bon renom vaut mieux que beaucoup d'argent, mais même ce bon renom n'est pas la seule chose nécessaire. Car la Bible nous dit « Que servirait-il à un homme, à une femme, de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» La question de Jésus-Christ nous fait entrevoir la seule chose nécessaire, c'est un cœur ouvert à Jésus-Christ, une expérience personnelle de son salut. Nous ne pouvons pas nous passer de cela, car sans ce si grand salut, nous ne pourrons jamais avoir accès en la présence de Dieu, ni subsister devant son tribunal. Chers amis, maintenant, nous allons terminer ensemble par la prière. Prions. Seigneur Dieu, nous voici devant toi, écrasés par le péché de ce monde, solidaires de nos frères et sœurs, nous portons notre part des iniquités dont notre monde s'est rendu coupable, de ses apostasies, de ses cruautés, de son égoïsme, des hontes qui souillent encore les rues de nos cités. Aie pitié, Seigneur, de ce peuple qui s'égare en des chemins glissants et qui trébuche dans les ténèbres. Envoie-lui des prophètes puissants en parole et en acte, des messagers de ta justice aux saintes intransigences et de ta miséricorde aux compassions infinies. Envoie-lui des hommes et des femmes décidés à bâtir la cité fraternelle et pure dont Jésus-Christ sera le roi, prédestiné, décidé à ne pas plier les genoux devant les idoles du jour, telles que Mammon, Bacchus, la drogue ou Astarté. Vivifie nos églises pour qu'elles puissent devenir les instruments de ta volonté et d'ardents foyers de révolte contre le mal. Sanctifie nos familles pour que les époux demeurent unis dans ta paix, que les enfants croissent dans la lumière de ton amour et que la jeunesse délivrée de toutes les peur demeure avec adoration dans ta crainte. Oui, purifie notre vie sociale et ses souillures, ses institutions qui la déshonorent, les vices qui la corrompent, et hâte le jour béni où les carillons de nos terrestres cités sonneront l'avènement de ta loi. Amen. Et chers amis, comme vous le savez, Dieu vous aime, et nous également, de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à toutes ces études. Et à bientôt à nouveau, car il y en aura d'autres encore, des plus intéressants. Au revoir, très chers amis.